franceinter.fr.
France Inter,
le 6-9 du week-end.
La main verte d'Alain Baraton. Bonjour Laurent Delmas.
Bonjour Patricia, comment allez-vous?
Est-ce que vous connaissez Pierre-Joseph Redouté?
Mais absolument pas, mais je suis certain qu'Alain va nous éclairer.
Mais Alain Baraton est absolument scotché parce qu'on ne le connaît pas.
Bonjour, enfin, je suis un peu consterné.
Ne l'exagérez pas, je vais vous gueuler.
Pierre-Joseph Redouté, qui était aussi surnommé le Raphaël des Fleurs, et bien sachez que cet homme est vraiment talentueux et que enfin, il est bon qu'une exposition en France lui soit consacrée.
Exposition, avez-vous dit, mais où ça?
Elle se tient au Musée de la vie romantique à Paris du 26 avril au 1er octobre.
Oui.
Et la commissaire de l'exposition, Catherine de Bourgoin, a fait, et je vous l'assure, un travail remarquable. Avec son équipe, elle présente plus de 250 peintures, aquarelles, objets d'art et des velins.
Ah, des velins, attention, fragiles.
Oui, aussi a-t-il été prévu, c'est astucieux, de les présenter par roulement en trois fois. Ces velins proviennent de nombreuses collection publique française et de Belgique, car ne l'oublions pas, Redouté était né dans ce pays.
Mais Redouté ne l'était pas, c'est-à-dire qu'il était apprécié de tout le monde.
Eh bien oui, sous la royauté, sous la... C'est très fort.
Celle-là, je... Ah,
ah là, là, je dois reconnaître, très fort.
C'est vous qui l'avez écrite?
Non. Bravo. Toujours est-il que, sous la royauté, le talent de Redouté est reconnu par Marie-Antoinette, qu'il rencontre en 1782. En pleine tourmente révolutionnaire, ses œuvres plaisent aux émeutiers. C'est l'époque où il y a ce petit retour à la nature. On aime bien tout ce qui est floral, donc Redouté, effectivement, a le vent en poupe. Il est ensuite le protégé de l'impératrice Joséphine, qui a demandé à son jardinier de créer une roseraie, eh bien, pour son domaine de la même maison, et Redouté peut venir à loisir les dessiner. Redouté poursuit son travail auprès de l'impératrice Marie-Louise, la seconde épouse de l'empereur. Il est décoré de la Légion d'honneur en 1825 par Charles X. Il continue enfin d'exercer son art auprès de Marie-Amélie, l'épouse du roi Louis-Philippe. Il s'éteint en 1840, il avait 81 ans.
Alors si on vous suit, il a peint beaucoup de roses, non ? C'est essentiellement ça ?
Oui, les roses, ce sont ses œuvres les plus fameuses, mais il a aussi dessiné des iris, pivoines, amaryllis, plantes grasses et quantité d'autres végétaux, car il était aussi, je dirais peut-être même avant, un grand botaniste. Pour la petite anecdote également, allez donc sur Internet et consulter les œuvres mises aux enchères de Redouté. Il y a de plus en plus de catalogues qui sont vendus. Ils atteignent un prix absolument démentiel.
Et quand il a le vent en poupe, on l'appelle le redoutable. Et ça, c'est un papier que vient de me faire passer Laurent Delmas.
Mais il a bien pas dénoncé comme ça.
Alors, toujours est-il que si vous ne connaissez pas Redouté, précipitez-vous au musée de la vie romantique.
C'est un joli musée.
C'est un très
musée,
bel endroit.
Très bel
c'est dans le 9e arrondissement à Paris.
Très peu de Parisiens, en fait, connaissent. C'est dommage, parce que c'est vraiment quelque chose, un bâtiment qui mérite d'être mieux connu. L'origine de ce musée date, il est bon de le rappeler, de 1830, date à laquelle un artiste...
Enfin, on ne va pas non plus faire toute l'histoire du musée, maintenant
qu'il
dit ça.
Si, parce que je crois qu'il est intéressant de savoir qu'en 1830,
c'est les plans,
un artiste hollandais, Harry Schaeffer, décide de s'installer sur les coteaux de la butte Montmartre. Il fait construire, voyez-vous, une jolie maison de taille modeste, avec un atelier et dans le petit jardin, une serre, car tout ce que je dis a toujours, Patricia, une relation avec le végétal, bien évidemment.
Et
dans ce lieu charmant, et oui. Dans ce lieu charmant, il l'est toujours, le tout Paris vient saluer le maître des lieux, eh bien, au musée de la vie romantique, autrefois en 1830 et ensuite, il était possible d'y croiser, excusez du peu, Delacroix, Rossini, Georges Sand et Chopin. Et ce musée est devenu, enfin cette maison est devenue musée depuis 1987. Mais c'est vraiment un lieu merveilleux.
Et donc on va voir l'exposition Pierre-Joseph Redouté, surnommé le Raphaël des Fleurs.
Oui, à juste titre.
Je m'associe à Sylvie pour vous poser la question suivante. Quand et comment replanter au mieux mes jacinthes reçues à Noël?
Alors là, c'est toujours un peu délicat. Les jacinthes sont des fleurs extrêmement réputées, extrêmement connues, qui fleurissent abondamment dans les massifs. Elles viennent à peine de terminer d'ailleurs leur floraison, ou elles sont offertes également à Noël en très grosse quantité. Elles sont dans le dépôt généralement toutes seules. Elles sont là et elles embaument merveilleusement la maison, car la jacinthe sent bon. Le problème, voyez-vous, c'est que ces plantes ont été fabriquées par des horticulteurs à coups d'engrais, bombardées de substances, et qu'il est bien difficile de les faire refleurir d'une année sur l'autre. Elles finiront par se faire, par dégénérer.
En pleine terre?
Oui. En pleine terre, différemment. Que faut-il faire pour récupérer le bulbe et faire en sorte qu'il refleurisse? Peut-être pas aussi brillamment, mais quand même avec un petit peu d'éclat.
Regardez-vous.
Voilà, tout à fait. Alors, premièrement, oui, c'est gentil, ce petit commentaire. Eh bien, premièrement, attendez avant de retirer le bulbe de la terre, que ce soit en pot ou en pleine terre. Attendez que le feuillage ait séché. Le bulbe a besoin de se constituer des réserves. Il continue de s'alimenter dans la terre par les petites racines, mais il n'alimente plus les feuilles et tout ce qu'il absorbe va aller se constituer en réserve dans le bulbe, des réserves indispensables au redémarrage printanier l'année suivante. Lorsque enfin le feuillage est bien sec, vous pouvez le couper, vous pouvez retirer les jacinthes, les faire sécher bien évidemment, puis ensuite les entreposer dans un cajot, l'idéal sur du sable, dans un local frais, sombre et aéré. Et là, l'année suivante, elles refleuriront, mais ne vous attendez pas à des merveilles. Elles finiront en quelques années seulement par se dégrader.
Elisabeth, un chêne centenaire qui a maintenant un trou à sa base. Il nous a bien semblé voir des capricornes qui en sortaient. Comment traiter cet arbre ?
Alors là, il y a un problème, parce que d'un côté, il y a le chêne, arbre magnifique, et puis ce chêne est vieillissant, de toute évidence. Et je le dis aussi, il y a 8 jours, je parlais, souvenez-vous, du lierre, où je rappelais que ce n'est pas parce qu'il y a du lierre dans un arbre que l'arbre souffre, c'est parce que l'arbre est en souffrance qu'il y a du lierre. Eh bien, pour le capricorne, je dirais que c'est pratiquement la même chose. Le capricorne n'est pas à l'origine la cause du problème végétal, c'est parce que l'arbre a un problème que le capricorne en profite pour s'installer. Le problème, c'est que la présence du capricorne accélère la décomposition du végétal. Deux cas de figure, mais il aurait été bon qu'Alain Bougrain-Dubourg soit à côté de moi pour confirmer. Soit il s'agit d'un capricorne normal, le petit capricorne que j'imite d'ailleurs relativement bien en privé.
Soit en public aussi.
Soit il s'agit du grand capricorne, le grand capricorne. La différence, elle est énorme. Le petit capricorne peut se combattre, le grand capricorne est protégé par la loi. Ce qui veut dire que s'il s'agit de grand capricorne, vous ne pouvez rien faire.
Pas le droit d'y
toucher. Voilà. Alors, faut simplement sonder l'arbre, regarder s'il y a un risque de chute, arrêter de faire une psychose sur la chute des arbres. Il est aussi possible d'aubaner le végétal, de le consolider. On ne met pas de béton, rien du tout. Par contre, ce qu'on peut faire discrètement, effectivement, c'est boucher le trou déjà. Ça limitera peut-être le déplacement des capricornes, même si ils en feront ailleurs, ça pourra quand même limiter les problèmes. Mais si il s'agit des grands capricornes, et il s'agit très certainement de cela, il n'y a rien à faire. La bestiole est protégée.
Et vous savez qu'il est temps de conclure ?
Oui, alors, allez, on va le faire rapidement.
Non, mais prenez votre temps.
Rapidement, deux choses. Flower Power, le pouvoir des fleurs, eh bien, c'est au domaine de Chaumont-sur-Loire. Nous y reviendrons d'ailleurs, car c'est le Festival International des Jardins. Tous les ans, nous en parlons. C'est une manifestation extraordinaire où le domaine de Chaumont confie à des équipes le soin de présenter des jardins éphémères. C'est tous les ans extraordinaire à voir. Et là, il faut saluer justement le talent de Chantal Collot-Dumont, la directrice, qui a toujours le don avec ses équipes pour détecter, trouver des petites perles. Oui. Et puis, je profite également d'avoir cité Chantal Collot-Dumont pour signaler son ouvrage « Art et nature ». C'est publié chez Flammarion, où justement, elle reparle de Chaumont-sur-Loire et elle parle bien sûr de l'art contemporain. Comme quoi, l'art contemporain, quand il est choisi par des femmes de qualité, dans des lieux de qualité, peut parfaitement, s'intégrer dans un jardin. C'est pas toujours incongru, ça peut l'être parfois, mais là, c'est un très bel ouvrage, Art et nature, texte de Chantal Collot-Dumont, photographie d'Éric Sander, publié chez Flammarion. Allez hop, 40 euros, mais c'est un joli livre.
Allez hop, vous restez. Là, vous donnez le prix pour le coup.
Oui,
je comprends pas quand vous le donnez, quand vous le donnez.
Parce que là, j'avais envie de le donner.
Est-ce que vous restez pour Laurent Delmas ?
Non.
Ah, mais c'est pas gentil, ça.
Si je plaisante.
Non, c'est pas gentil.